Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campusil.com et sur le DAB+ dans la région lilloise. Comme chaque mercredi, vous retrouvez le magazine Campusil Info consacré à l'Université de Lille. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes en période, on va dire, pré-Noël. Et donc, nous allons aborder ce thème au travers aussi de la science et aussi de la réflexion autour de ce mythe, de ce culte pour certains d'ailleurs, et de, surtout de gros business. Alors, j'ai invité aujourd'hui monsieur Michael Salson, qui est maître de conférence à l'Université de Lille. Bonjour monsieur Salson.
Bonjour.
Et vous avez déjà réalisé des conférences sur ce thème-là, et notamment avec des thèmes tels que « Pourquoi commence-t-on à adhérer à une croyance ? Pourquoi continue-t-on à y adhérer ?» au-delà peut-être de toute raison, et comment en sortir éventuellement. Voilà, donc c'est ces thèmes-là qu'on va aborder aujourd'hui. Peut-être présenter aussi une science, si on peut l'appeler une science, à vous de le définir, qui s'appelle la zététique. Quelques mots peut-être sur ce mot un peu barbare ?
Oui, alors c'est un mot qui peut effectivement paraître barbare. Alors c'est pas tout à fait une science, mais c'est plus c'est présenté comme un art du doute, c'est-à-dire comment douter de manière raisonnable de certaines affirmations qui nous sont faites, comment savoir si elles sont plutôt vraies ou si elles sont plutôt fausses, quels sont les critères qu'on peut appliquer, quels sont les biais desquels il faut se méfier pour ne pas tomber dans des croyances qui peuvent paraître un peu absurdes de l'extérieur ou qui peuvent paraître iconoclastes. Donc c'est ça la zététique, ce qu'on appelle la zététique, oui.
Donc quand on dit croire au Père Noël, c'est beaucoup plus large que Noël en tant que tel. Donc on peut tous être plus ou moins pris dans des croyances. Quelles sont les principales croyances populaires, j'allais dire, d'une certaine manière ? Est-ce qu'il y a un hit-parade des croyances en France, par exemple ?
Alors, j'ai pas de connaissance des hit-parades des croyances, mais c'est sûr que la croyance au Père Noël doit être assez haut dans ce hit-parade. Après, on a des croyances sur lesquelles il n'y a pas forcément de choses à dire scientifiquement. Il faut bien voir qu'on s'intéresse dans la zététique à certains types de croyances. C'est ce qu'on appelle des affirmations de type scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est une affirmation scientifique en elle-même. Ça ne veut pas dire que c'est si je lâche un objet, il va tomber. C'est pas forcément uniquement ce type d'affirmation-là. Mais par exemple, si je dis que j'aime le chocolat, bah c'est pas spécialement une affirmation de type scientifique parce que on n'a pas moyen de montrer que j'ai tort. Et donc, ce qui est important dans une affirmation, c'est pour qu'elle soit de type scientifique et donc pour qu'on puisse discuter entre nous et puis pour qu'on puisse montrer si elle est plutôt vraie ou si elle est plutôt fausse, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein. Si on parle du Père Noël, on veut savoir est-ce que c'est plutôt vrai qu'il apporte des cadeaux ou est-ce que c'est pas plutôt vrai. Il faut qu'on ait le moyen de dire que cette affirmation, elle est plutôt fausse. Donc qu'on ait un moyen de montrer qu'elle est fausse, si jamais elle l'est, évidemment.
Est-ce que le fait que beaucoup de gens vivent des croyances des autres peut permettre déjà de se poser la question ?
De se poser la question ?
La réalité ? Du propos.
Alors effectivement, le fait que des gens y croient, on peut commencer à se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient que pour autant c'est attesté comme étant vrai. C'est un argument qui est très utilisé, de dire bah, comme il y a beaucoup de gens qui y croient, alors forcément ça doit être vrai parce qu'il peut pas y avoir autant de gens qui se trompent. Bah, en fait si, parce que nous, êtres humains, on aime bien un petit peu faire comme les autres, c'est ce qu'on appelle le conformisme. Comme tout le monde, on va se lever le matin, on va prendre un petit déjeuner, on va s'habiller, on va aller faire nos courses, et ainsi de suite. On va faire un certain nombre de choses un peu comme tout le monde. Et puis si on sort un petit peu de la norme sociale, on est un peu regardé bizarrement. Si on n'a pas de téléphone portable, par exemple, on va être regardé bizarrement. On va se dire, mais pourquoi tu n'as pas de téléphone portable ? Ou si on n'a pas d'enfant, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant ? Parce qu'on sort de la norme, qu'on sort du conformisme. Et donc on aime bien être dans cette norme-là. Et donc du coup, si on voit que beaucoup de gens croient dans quelque chose, on va se dire que oui, il faut certainement y croire également.
Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre croire au Père Noël et croire en Dieu, par exemple ?
Alors, il y a une différence. Il peut y avoir des différences et en même temps des similitudes. Le point commun qu'on va trouver entre la croyance au Père Noël et la croyance en Dieu, c'est qu'il y a des aspects qui, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas montrer que c'est faux. Il n'y a pas de moyen de montrer que c'est faux. On ne peut pas discuter en soi de est-ce que le Père Noël il existe vraiment ou pas. Finalement, on n'a aucun moyen de montrer qu'il n'existe pas. On peut pas. C'est très difficile de montrer que quelque chose n'existe pas. Je peux vous dire qu'il existe des animaux à trois ailes qui vivent sous l'eau et qui sont bleus turquoise avec des petites taches jaune fluo. Bah, si vous voulez me montrer que cet animal n'existe pas, on aura beaucoup de mal. Il faudra écumer tous les océans de la planète. Et encore, est-ce qu'il ne se cachait pas sous un rocher au moment où je suis passé ? Voilà, on n'a aucune certitude qu'il n'existait pas. Et donc, il y a ce point commun entre le Père Noël, la croyance au Père Noël, la croyance en lui-même. Ce qu'on peut discuter sur la croyance au Père Noël, en fait, c'est pas est-ce que le Père Noël il existe en lui-même, mais c'est est-ce que c'est lui qui apporte des cadeaux au pied du sapin. C'est plus ça, en fait, la question derrière. Et ça, pour le coup, c'est réfutable. Il y a des moyens de montrer que c'est vrai ou que c'est faux. Bon, en gros, il suffit de se planter au pied du sapin toute la nuit et de voir ce qui se passe. Et donc là, c'est une manière de réfuter l'affirmation, de se dire, bah, si je reste planté au pied du sapin et que je vois pas le Père Noël passer et que pourtant il y a des cadeaux qui arrivent parce que bah, ce sont d'autres personnes qui les apportent, là, ce sera une manière de réfuter cette affirmation-là, qu'on n'a pas pour la croyance en Dieu.
Est-ce que pour les gens, il est nécessaire de croire en quelque chose qui t'a changé en fonction des étapes de la vie ?
Alors, le fait de croire... on est obligé d'une certaine manière de croire dans des choses. On ne peut pas aller tout vérifier, on n'a pas les moyens, donc à un moment donné on délègue la confiance qu'on peut avoir dans des médias par exemple, de se dire bah tiens, ce média je lui fais confiance ou ce journaliste je lui fais confiance, et donc je ne vais pas aller vérifier l'information, je vais considérer que c'est vrai, donc je vais croire que c'est vrai. Mais ça peut être aussi le cas pour des affirmations scientifiques. Si je prends le réchauffement climatique, par exemple, je vais pas forcément aller chercher les rapports du GIEC, aller lire les rapports qui sont établis par l'autorité scientifique qui fait les synthèses sur les connaissances sur le climat pour savoir est-ce que le réchauffement climatique existe ou pas. Je vais déléguer cette confiance à des journalistes qui font le travail et me dire, bah, du coup, je vais croire au réchauffement climatique parce que il y a des gens qui me semblent compétents qui ont fait ce travail-là. Et donc, de cette manière-là, oui, forcément, on a des croyances.
Alors, on a des jeunes qui nous ont rejoints, ils vont peut-être se présenter. Bonjour, mademoiselle.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Sophia.
Sophia. Et toi ?
Pierre-Aloïs.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez cru un jour au Père Noël et est-ce que vous y croyez encore ?
Oui, j'ai cru, mais j'y crois plus du tout.
Toi ? Mon père, il m'a dit très tôt que ça n'existait pas.
À quel moment, à quelle période vous y avez cru ?
Jusqu'à quel âge ? Un an, je crois, à 6 ans.
D'accord.
Moi, à partir du moment où j'ai commencé à avoir une conscience, mon père il m'a dit que ça n'existait pas pour pas que je sois déçu. Donc,
Alors, deux choses dans ces propos-là. Est-ce que, sur le moment, pour vous, c'était intéressant d'y croire ? Est-ce que vous y avez trouvé votre compte ? C'est-à-dire, est-ce que c'était plaisant pour vous de croire au Père Noël ? C'est bien et tout, tu vois ?
Oui, au début, j'ai cru... J'ai cru qu'il vivait vraiment et tout, mais non, en fait non.
Et toi, tu attendais quand même qu'il passe la nuit ?
Oui, j'attendais et à un moment, eh ben, je me suis dit je vais rester à côté du sapin. C'est à ce moment-là que je savais qu'il n'existait pas.
Et toi, ton père a été plus direct, on va dire ?
En fait, même s'il m'a dit qu'il n'existait pas, moi, comme j'avais plein d'amis qui me disaient qu'il existait, bah, moi j'y croyais parce que j'écoutais mes amis plutôt que mon père. Et ça ajoute une magie, mais sinon c'est pas... Enfin, je pense qu'on aurait pu vivre sans.
Est-ce que, par exemple, si vous aviez à un moment donné eu vos parents qui vous disaient il faut croire au Père... Enfin, ils vous ont incité à croire au Père Noël d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, après, une fois que vous auriez découvert que ça n'existait pas, ça vous aurait donné l'impression que votre père ou votre mère vous aurait trahi quelque part ? Soit en vous disant des choses fausses au départ.
Pense, oui. Enfin, parce que tous les enfants, ils. Je sais pas comment dire. Ils sont. Ils se vexent au moindre truc. Et c'est comme tout un truc, tout un univers qui s'écroule. Parce qu'on y a cru pendant. Bah, pendant du coup toute notre vie quand on est enfant. Enfin, même si c'est une vie très courte. Puisqu'on a 6 ans quand on sait que le Père Noël n'existe plus. Et bah, du coup, c'est un peu comme. Enfin, c'est un truc auquel on a cru, qui nous a fait vivre, enfin, qui nous a fait rêver, qui nous a fait imaginer plein de choses, et que d'un coup on nous dit que ça n'existe pas. Du coup, je pense que ouais, ça peut. On peut en vouloir à nos parents.
Tu peux perdre la confiance, peut-être, tu penses, à une certaine partie de confiance, en une autorité, ou peut-être aux amis hein, qui vous ont raconté des bêtises. des choses fausses.
Non, pas pour moi. Pas personnellement.
Non plus. Donc vous n'en voulez à personne. Vous avez passé un bon moment et c'était bien.
Ouais.
C'est ça l'idée. Voilà. Donc on est sur le concret là. Donc de jeunes qui ont rencontré. Alors je sais pas si c'est une croyance ou une illusion à un moment donné.
Oui, mais c'est très intéressant ce que tu disais, Sophia, parce que à un moment donné, tu avais cette croyance et du coup, tu voulais vérifier et donc tu restes. Voilà, la manière de vérifier, c'est la bonne manière effectivement, c'est de dire bon, je reste au pied du sapin et puis je vais voir s'il arrive ce foutu bonhomme à apporter des cadeaux ou pas. Et donc c'est la bonne démarche à mettre en œuvre. Si on a une croyance, ce qu'on va avoir tendance à faire le plus souvent, c'est vouloir confirmer la croyance parce que c'est confortable d'être dans sa croyance et puis de se dire oula, surtout je vais pas trop en bouger et c'est ce qu'on fait très souvent. Et en fait, du coup, on reste dans notre croyance et on la vérifie pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que tu as essayé de faire, Sophia, enfin, c'est ce que tu as fait, c'est chercher à voir si vraiment cette croyance, elle est fondée et essayer de voir est-ce qu'on peut montrer qu'en fait, cette croyance, elle est pas vraie, quoi. Et donc, une manière de montrer, là, dans le cas du Père Noël, c'est ce que je disais tout à l'heure, une manière de montrer que cette croyance est pas vraie, c'est de se poster au pied du sapin. Mais de manière générale, il faut essayer, dans notre vie de tous les jours, de se dire, il y a des choses auxquelles je crois. Mais il faut que j'essaie d'aller voir, est-ce que ce que je crois, est-ce que c'est bien fondé réellement? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui contrediraient ce que je crois?
Alors, ce que je propose maintenant, c'est de vous faire écouter un son, d'accord? Sachant que pour le son, ben, a priori, le meilleur outil pour les intégrer, les aborder, ce sont les oreilles, bien sûr, hein. Donc, je vous demande d'écouter bien, attentivement, et vous allez me dire si le son que vous allez entendre a tendance à monter et... jusqu'où vous pensez qu'il montera, d'accord? Donc, on en parle après, je vous laisse écouter, ça durera à peine une minute, voir un petit peu vos impressions quant à ce son. Voilà donc un extrait, on ne va pas forcément écouter toute la minute, on peut la passer en boucle si vous voulez, mais ce n'est pas le propos. Votre impression pour l'écoute de ce son, à l'écoute de ce son ?
On dirait que c'est le même truc qui fait qui redescend et qui repart et qui repart et qui repart.
D'accord.
Ça augmente, après ça redescend et ça augmente.
D'accord. Donc. Ça crée une illusion d'une certaine manière, d'accord? On a un son qui démarre et qui a tendance à monter en fréquence, puis un deuxième qui vient en dessous, qui part du bas et qui monte, ce qui fait que ça n'a pas de fin, puisque ça revient toujours à avoir un son bas qui monte et l'autre qui est en haut qui disparaît au profit d'un autre son bas qui va s'intégrer. Donc on a l'impression d'une infinité comme ça. D'un son qui va indéfiniment se prolonger avec toujours une impression de monter, alors que c'est pas possible que le son monte toujours, vous voyez. Voilà, donc dans la vie on a un certain nombre de sens. Est-ce que vous pourriez nous dire les sens dont on dispose pour se rendre compte des réalités?
La vue, lui, le toucher, l'odorat, ouais, et le goût.
Bien, d'accord. Très bien. Donc avec tout ça, on est censé mieux comprendre, mieux interpréter le monde, mais on est forcément limité. On a plein d'outils autour de ça qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Peut-être une réaction sur cette séquence, Michael Salson.
Oui. Alors juste, je voulais revenir sur les cinq sens. Parce qu'en fait, on croit qu'on a que cinq sens, et en fait, on a beaucoup plus de sens que ça. C'est une idée reçue qui est souvent diffusée. Par exemple, on a le sens de préhension. C'est-à-dire, si je prends quelque chose dans la main, je sens que j'ai quelque chose dans la main. C'est pas juste le toucher, c'est je sens qu'il y a une pression qui est plus ou moins forte. Si j'appuie avec mon doigt sur ma main, je sens, est-ce que j'appuie légèrement, fortement. Donc ça, c'est pas juste le toucher. On a le sens de l'équilibre. Si je me lève, je me mets sur un pied... je vais sentir que je vacille un petit peu et puis je vais corriger et revenir un peu vers la gauche, vers la droite. Et donc on a d'autres sens que les cinq sens. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. Et donc, ce qui était très intéressant dans l'illusion auditive qu'on avait, c'est que oui, on se rend compte qu'en fait, on fait beaucoup confiance à nos sens parce que bah, c'est ce qui nous sert dans notre vie de tous les jours, hein, pour nous guider, pour ressentir notre environnement. Mais ils sont très trompeurs, ces sens. On connaît tous des illusions d'optique qu'on a déjà vues, où on croit qu'il y a des lignes qui sont parallèles alors qu'elles ne le sont pas, ou l'inverse. Et on peut imaginer plein d'autres, enfin on peut montrer plein d'autres illusions, que ce soit d'optique ou d'autres types d'illusions, qui sont des illusions qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire de notre cerveau. Notre cerveau qui va faire des choses sans qu'on s'en rende compte, et du coup on va croire que quelque chose est vrai, alors que en fait, non, c'est pas forcément fondé. Donc une illusion que je citais un petit peu, alors c'est pas tout à fait une illusion, mais une illusion cognitive, c'est le biais de conformisme. Le biais de confirmation, pardon, dont je parlais tout à l'heure un petit peu, on cherche à confirmer notre croyance et on ne cherche pas à l'infirmer, à voir en quoi elle pourrait être fausse. Donc ça fait aussi partie un petit peu de ces mécanismes du cerveau un peu automatiques sur lesquels on n'a pas tout à fait le contrôle. Hein. Une illusion d'optique, je n'ai pas le contrôle dessus. J'ai beau vouloir voir deux lignes parallèles, et je ne les vois pas parallèles. Pareil avec les illusions cognitives, j'ai beau vouloir infirmer ma croyance, je vais avoir ce mécanisme automatique de vouloir confirmer ma croyance à tout prix.
Alors c'est vrai qu'il y a de grands artistes, hein, de l'art cinétique, c'est ça, hein, qu'on dit ça un peu comme ça. Vasarely aussi, des gens comme ça qui ont porté beaucoup en termes de repères, comment par rapport à un espace on s'en détourne, influencé par ce qu'on voit et mettre ça en perspective avec nos sens, notre perception du monde. Donc on a aussi des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on croit en des choses diverses et variées. Si on prend la publicité, bien sûr, c'est peut-être un moindre mal par rapport à des messages dont on parlait il y a quelque temps, les messages subliminaux. Un petit point là-dessus ?
Alors sur les messages subliminaux ou sur les messages publicitaires, je suis pas un spécialiste de la question, hein, je suis informaticien à la base, mais je donne des cours de zététique. Sur les messages subliminaux, c'est un petit peu la même chose, ce sont des choses qu'on peut percevoir sans forcément s'en rendre compte, et qui peuvent avoir un effet. Il y a des choses qui sont montrées sur la publicité, puisque vous le mentionnez, des choses, alors c'est peut-être pas tout à fait subliminaux, mais imperceptibles si on veut, on n'a pas conscience de le percevoir. Subliminal, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas le temps de manière consciente de le percevoir. Là, je parle plus de messages qu'on a le temps de percevoir, mais si on demande aux personnes après coup, est-ce que vous l'avez perçu, de quoi est-ce que vous parlez. Et donc ça a un vrai effet, bien qu'on pense que ça n'a aucun effet, et si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que tel message aura un effet, ils nous disent non. Par exemple, si je vous présente une liste de mots, et puis que je vous demande à partir de ces mots de faire une phrase. Bon, c'est une tâche relativement simple, mais dans certaines expériences, pour ces mots, on va mettre des mots liés à la vieillesse, par exemple. Et donc, ce qui a été observé à plusieurs reprises, dans diverses expériences, c'est que, avec ces mots liés à la vieillesse, les gens, ensuite, quand ils vont repartir et qu'ils vont gagner la porte de la pièce, ils vont mettre un peu plus de temps à partir, parce qu'ils ont été influencés juste par des mots liés à la vieillesse. Voilà. C'est pas vraiment du subliminal à proprement parler, mais c'est inconscient, on n'a pas conscience qu'on est en train de traiter des mots liés à la vieillesse, on n'a absolument pas conscience et on dirait pas, on penserait pas que ces mots auraient une influence sur nous, et pourtant ça a été observé par plusieurs expériences sur le sujet.
De plus en plus de personnes sont confrontées à une certaine forme de solitude face à des écrans et à Internet. Est-ce qu'il existe des risques quant à l'hypnose par Internet, par exemple, ou à des gourous qui créent d'une certaine manière une relation particulière avec le visiteur et les entraînent dans des mondes non seulement virtuels mais dangereux.
Alors le danger, que ce soit en virtuel ou en réel, hein, parce que l'existence de sectes n'a pas attendu Internet, ça existe depuis bien longtemps. Le danger de ce genre de pratique, c'est effectivement d'avoir un lieu où les gens sont confirmés dans leurs croyances. Et le danger, c'est que la personne qui est en train d'être entraînée, si on veut, dans une secte ou dans un mouvement sectaire, c'est que les proches de cette personne-là tentent de l'en sortir. Et du coup, ce qui paraît le plus accueillant pour cette personne, c'est les personnes qui confirment ses croyances, celles qui sont dans la secte, pas celles qui cherchent à les réfuter et qui sont à l'extérieur de la secte. Et donc c'est un mécanisme qui est très vicieux, parce que plus on essaye de sortir la personne de ce mouvement sectaire, parce qu'on a vraiment envie de qu'elle aille bien et qu'elle ne rentre pas là-dedans, bah finalement, plus on l'enfonce dedans, parce que Pour la personne qui est dans cette condition-là, c'est beaucoup plus confortable de croire ce que lui dit la secte à ce moment-là, parce que ça va confirmer ses croyances, ça va peut-être aller dans son sens à ce moment-là.
Alors, est-ce que les jeunes qui sont ici ont été confrontés, je vais leur demander d'ailleurs, à des expériences désagréables sur Internet, notamment de propos qui vous semblaient choquants? Est-ce que, en les voyant, vous avez eu le réflexe, par exemple, d'appeler vos parents ou d'en discuter avec des amis?
Non, pas spécialement moi.
Non.
Tout va bien. D'accord. Donc il y a une certaine prudence. Vous faites, vous êtes prudent d'une manière générale.
Oui, je pense que si on veut pas voir certaines choses, on les voit pas. Je pense aussi qu'il faut se restreindre de beaucoup de choses. Hein. Par exemple, si on veut pas avoir de propos choquants, tout ça, il y a des réseaux sociaux qu'il faut éviter. Mais c'est possible. Je pense qu'on peut éviter ça sur Internet.
Voilà. Donc toi, si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui nous écoutent, tu dirais quoi?
J'ai pas de conseil en particulier, c'est juste de s'éloigner de ce que nous on pense toxique pour nous, parce qu'il y a des différents degrés de, il y a des gens qui peuvent être choqués pour certaines choses qui choqueraient pas d'autres gens. Il y a des gens, ils trouveraient ça anodin. Donc juste s'éloigner de ce qui nous peut nous choquer ou nous choquer.
D'accord.
Moi, je dirais pareil. Oui. J'ai un compte sur Instagram, il y a un garçon, il met des vidéos genre où il frappe des animaux et tout. J'ai signalé direct et le compte est passé pour aller le signaler. Mm-hmm. Et ça fait, le compte a été signalé et bon. Il ne fait plus rien.
Bon, bonne réaction. Voilà. Donc comment on arrive dans un univers, à un âge donné, à maîtriser, à contrôler ce qu'on veut voir, pas voir, et ce qu'on juge dangereux aussi, en le signalant si nécessaire, ou en alertant les autorités, peut-être les parents, si c'est possible aussi, parfois. Donc je te sens bien inspiré par ton père, par exemple, pour lui, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est important. Alors, par rapport à ça, donc on a toutes ces approches possibles au travers d'Internet, et puis on a aussi des gens, alors qui sont peut-être aussi dangereux, hein, c'est ceux qui veulent nous faire croire que leur médicament c'est le meilleur, ou qui veulent, au travers d'études soi-disant très scientifiques, valoriser un produit plutôt qu'un autre, avec derrière des gros intérêts économiques.
Oui, alors là c'est une grande question, comment pouvoir faire confiance à des études qui sont financées, par exemple, par des entreprises pharmaceutiques pour vanter les mérites de leurs produits? Ce sont des questions très compliquées et même des gens qui sont très connaisseurs du sujet peuvent se faire avoir, parce que c'est très difficile d'avoir une vision claire de qu'est-ce que serait une étude qui n'est pas biaisée. Hein. Parce que ce qu'on voudrait, c'est des études qui soient bien menées, mais sans l'influence du financement de l'entreprise pharmaceutique, qui a un intérêt très clair, évidemment, à vendre son produit. Et donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger pour avoir un petit peu plus, une vision plus claire, disons, sur les connaissances scientifiques, sur les bénéfices de tel ou tel médicament. Et donc, il y a des initiatives pour forcer les industriels à publier toutes leurs études. Parce qu'une manière très simple de vanter les mérites de son produit, c'est de dire je fais beaucoup d'études sur mon produit, alors que ce soit un médicament ou autre chose. Et puis ce que je vais publier, ce que je vais mettre en avant, c'est uniquement les études qui font sortir un bénéfice. Il y a des études qui ne font pas sortir de bénéfice ou qui font au contraire état d'effets secondaires graves, ben on va les cacher. Donc il y a des exemples de laboratoires pharmaceutiques qui ont vraiment explicitement fait le genre de choses que je décris ici, qui ont caché des effets secondaires graves de certains médicaments, qui n'ont pas publié ces études-là et qui, au contraire, ont mis en avant des études bénéfiques.
Alors, dans les médias, je pense à deux en particulier, il y a Le Canard Enchaîné et Mediapart qui tentent parfois de mettre en évidence des conflits d'intérêts. Ce n'est pas le cas de tous les journaux, sachant que les journaux ont des propriétaires, que c'est parfois délicat aussi pour les journalistes de s'exprimer, et notamment quand les labos financent une partie du journal. Donc, comment on peut, dans une formation de journaliste, et par rapport au journalisme scientifique par exemple, amener le maximum de sérieux, de crédit, à ce que ces futurs journalistes vont pouvoir exprimer au travers de leur presse?
Alors, en ce qui concerne les conflits d'intérêts des qu'auront à gérer eux-mêmes les journalistes, effectivement, c'est une grande question de comment être indépendant. Et le problème, c'est pas tant la personne en elle-même, mais l'environnement dans lequel elle se trouve. Et une personne aussi, par exemple, je sais pas, dans le journal Le Figaro, si elle tient à faire un article sur Dassault, qui est donc le propriétaire du Figaro, peut-être que ça va avoir du mal à passer, et puis peut-être que cette personne sera petit à petit dirigée vers un placard, et donc elle quittera d'elle-même la rédaction. Donc ça, c'est effectivement un problème compliqué, mais... Bon,
sinon, Le Figaro peut demander un droit de réponse, hein, on sera heureux de l'accueillir.
Mais alors, dans la formation journaliste scientifique dans laquelle j'interviens, ce que j'essaie de montrer aux étudiants, c'est comment se méfier des résultats qui peuvent paraître très probants, mais à cause du biais que j'ai énoncé tout à l'heure, hein, des laboratoires pharmaceutiques qui vont mettre en avant certaines études au profit, au dépens d'autres. Quels sont en fait tous les écueils dans lesquels peut tomber la recherche scientifique ? Parce qu'on a l'image de scientifiques qui sont des êtres parfaitement rationnels et qui font des choses parfaitement carrées. Les scientifiques dont je suis sont des êtres humains comme les autres et on a des biais comme tout le monde. Et donc on fait des erreurs comme tout le monde et puis on a des préférences politiques, idéologiques, on peut être financé par telle ou telle entreprise. Et donc il y a plein de raisons qui font que les résultats issus des études scientifiques ils ne sont pas nécessairement extrêmement robustes. Et donc ce qu'il faut pour pouvoir se faire un avis scientifique un peu fondé, c'est regarder un grand ensemble d'études, et c'est à partir de ce grand ensemble d'études qu'on peut dire que telle chose est dangereuse ou telle chose n'est pas dangereuse. C'est ce que fait, par exemple, je citais le GIEC tout à l'heure sur le climat, c'est ce que fait le GIEC, il y a un groupe d'experts qui n'a pas de conflit d'intérêts avec les industries du pétrole, par exemple, ou avec l'industrie nucléaire, par exemple, enfin, diverses industries qui pourraient avoir des intérêts dans un sens ou dans l'autre, et qui font une synthèse des connaissances scientifiques sur le sujet, donc qui prennent des milliers et des milliers de résultats d'articles scientifiques pour voir qu'est-ce qu'on peut dire, là, à ce moment donné, sur les connaissances scientifiques, sur le réchauffement climatique, et ce qu'ils disent, c'est, la planète se réchauffe, et c'est principalement dû à l'activité humaine.
Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un document que je vais vous faire entendre, on en reparle après.
La pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique.
Et cette quantité de carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
C'est un baratin, ça. L'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques.
Pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne.
Et risque de réchauffement.
Donc, à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas ? Et montée des eaux, et donc noyade de toutes les... De toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres.
Vous êtes en train de paniquer les populations, là.
Pas de panique, pas de panique, surtout pas de panique. Vous écoutez la télévision. Alors, donc, on revient à cette année 1979 où Haroun Kaziev donc présentait sa vision des choses, contredit par Jean-Yves Cousteau, à l'époque également grand scientifique. Il y a eu aussi René Dumont, un peu au préalable, hein, qui était d'ailleurs président, candidat à la présidence de la République, hein, avec des thèses très intéressantes, hein, sinon suivies, sur le climat et l'écologie en général. Voilà. Donc là, on est 1979, 2018, presque 19, ça fait du temps qui est passé, qui donne peut-être plus raison à Haroun Kaziev qu'à Cousteau. Donc voilà, on est passé là, peut-être de lobbies, hein, qui ont pesé lourdement et sur lesquels maintenant on a du mal à faire pression et faire marche arrière d'une certaine manière avec un climat qui s'est beaucoup dégradé.
Oui, en fait, le poids des lobbies, alors il est très, très intéressant en fait le thème du climat, parce que sur l'industrie du tabac, c'est très clair que dès le début, l'industrie du tabac a mis énormément de moyens pour nier l'effet scientifique. Sur le climat, c'est beaucoup plus intéressant parce que dans les années 70, je le dis de mémoire, je me trompe peut-être d'une décennie, mais pas beaucoup. Dans les années 70, il y avait Exxon, il y avait Shell qui menaient des recherches sur le réchauffement climatique et qui trouvaient que oui, la Terre se réchauffait, que oui, c'était dû à l'activité humaine et qui faisaient des scénarios de réchauffement qui disaient bah oui, ça va se réchauffer si on continue comme ça de environ 3 degrés. Donc qui étaient complètement en ligne avec les connaissances scientifiques. Et donc, en ça, c'est assez différent de ce qu'on avait avec l'industrie du tabac. Mais par contre, depuis, on a effectivement des lobbies encore plus importants aux États-Unis qui sont financés en partie par l'industrie fossile et qui cherchent à nier le réchauffement climatique ou maintenant, de manière plus subtile, à le minimiser en disant « Oui, mais vous savez, le CO2, c'est bon pour les plantes. Certes, mais c'est pas une raison en soi. » Et il y a plein d'effets négatifs au réchauffement climatique qu'ils mettent de côté par ailleurs. Ou il y a d'autres évolutions du réchauffement climatique maintenant du fait de nier le réchauffement climatique, pardon, qui consiste à dire « Oui, mais vous savez, c'est pas si grave, on va réussir à mettre des choses dans l'atmosphère pour finalement refroidir le climat, ou on va mettre des choses dans l'océan pour refroidir le climat, alors qu'on n'a pas vraiment d'évaluation concrète de savoir est-ce que ça va vraiment marcher, mais ça permet de retarder les prises de décision, et c'est ça que veulent vraiment les industries fossiles, c'est retarder les prises de décision pour ne pas nuire à leur business.
Alors les jeunes qui sont ici, est-ce que pour vous c'est un phénomène qui commence à vous préoccuper ou pas encore, le réchauffement climatique ?
Oui, enfin, parce que ça nous concerne nous, plus que les générations au-dessus. Parce que nous, bah, il dit tout le temps d'ici 2050, on aura la planète aura augmenté de tel degré, d'ici 2020, on aura fait ça, d'ici nanana, et c'est des moments où nous, on sera en train de se développer, et surtout aussi pour les générations encore dessus, quand nous, on fera des enfants qui seront bébés et qui vivront dans ce climat-là. C'est pas... Enfin, surtout, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi la pollution, et qui vivent avec ça, et quand ils sont en train de se développer, qu'il y ait de la pollution comme ça, c'est pas top.
Bon, je sens que vous nous en voudrez beaucoup de vous avoir laissé une planète dans ces conditions. Toi aussi, tu as ce point de vue ?
Moi, personnellement, là, pour l'instant, je me préoccupe pas trop du climatique.
Est-ce que tu respires bien, d'une manière générale ? Est-ce que tout ça, ça va pour toi ?
Oui, ça va. C'est juste, je trouve qu'il y a un petit peu trop de pollution. Mm-hmm. Et sinon, ça va.
Sur la région lilloise, par exemple ?
Oui, quand même, il y en a.
Quand même un peu, hein, ouais. Alors là, c'est pareil, il y a des agences en France pour la pollution. Hein. Il y a une carte mondiale aussi de la pollution qui est assez intéressante, où là, on voit, par exemple, des coefficients, on va dire, hein, qui vont de 0 à, j'ai vu le plus gros, ça doit être dans les 500. En France, on a une grille qui est de 0 à 10, mais au-dessus de 10, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Donc j'ai envoyé un message à la société qui gère cette pollution en me disant qu'est-ce qu'il y a au-dessus de 10 pour donner des informations sur la dangerosité au-delà du fait qu'on soit arrivé à 10. J'ai pas de réponse encore. Par contre, le tableau, je crois que c'est la Chine qui diffuse ça, où on voit les zones dans le monde, hein, qui sont à 500, ou en Inde, en Chine ou en Afrique. En France, c'est quand même beaucoup moins grave, mais on a quand même ces problèmes-là qui sont importants pour la population, sauf qu'il y a peut-être moins de morts qu'ailleurs. Voilà. Mais c'est un vrai problème à régler. Donc le problème, c'est l'intérêt général. Le profit d'un certain nombre d'entreprises qui, pendant un court temps, vont polluer ou produire des choses dommageables dans un court terme et sans pouvoir après nous en débarrasser. Donc on est souvent dans des industries qui ont des visions à court terme de servir les dividendes à leurs actionnaires plutôt que de se préoccuper de ce qui va se passer dans 50 ans. Donc voilà, elles essaient un petit peu de jouer de leur lobbying avec des gens assez influents, parfois qui ont fait de brillantes études. Dans le monde intelligent, il y en a. Beaucoup de gens intelligents.
Ah oui, oui. Et d'ailleurs, pour rester sur cette thématique de l'intelligence, alors, qu'est-ce que l'intelligence ? C'est une vaste question, mais il y a des études qui ont regardé, en fonction du niveau de connaissance scientifique, est-ce que la croyance au réchauffement climatique, le fait de dire que oui, le réchauffement climatique est bien dû à l'humain, est-ce que c'est fonction juste des connaissances scientifiques des personnes ou pas? Et en fait, alors c'était fait aux États-Unis, et en fait, pas tellement. Ce qui est observé, c'est que ça dépend beaucoup plus du côté partisan, c'est-à-dire est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt démocrates ou républicains, hein, donc on est aux États-Unis, et c'est plutôt ça qui explique, avec le niveau de connaissance scientifique, mais pas seulement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que chez les républicains, plus le niveau de connaissance scientifique est élevé, et moins ils croient au réchauffement climatique anthropique, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on dit plus on a de connaissances scientifiques, plus on sait comment ça marche et tout ça, mais en même temps, on a aussi les outils qui permettent d'aller trouver des petites choses à nier dans le réchauffement climatique pour tout mettre à la poubelle. C'est pas parce qu'il y a un petit truc où il y a des incertitudes qu'il faut tout mettre à la poubelle pour autant. Hein. Ça, c'est extrêmement critique. Il faut douter, mais il faut douter raisonnablement. Il faut pas être dans le doute systématique. Et donc là, ces personnes-là, ils vont chercher quelque chose qui pose question pour tout remettre à la poubelle. Et là, ils utilisent leur connaissance scientifique finalement pour tout mettre à la poubelle et tout nier.
Actuellement, j'ai l'impression qu'on assiste un petit peu à un reniement de tout ce qui est prétendu, et on voit la population qui bouge hein, sur des constats qu'elle fait ou des impressions qu'elle a d'une situation qui ne s'arrange pas pour elle, en tout cas, pour le monde peut-être. Donc, on est peut-être à un moment où la lucidité viendra après une mise à plat un petit peu de tout ce qu'on nous a un peu inculqué et de toute la pression médiatique qu'on subit. Et faudra peut-être là, ce serait peut-être une bonne occasion de, à partir d'une mise à plat, de rebondir sur quelque chose de plus honnête.
Oui, ce serait bien. Après, à voir comment ça peut être mis en œuvre et comment éviter donc les conséquences du lobbying ou les conséquences des études financées par l'industrie et qui tendent à nier les conséquences de leurs produits, c'est un vaste chantier.
Donc ce chantier, ben, vous le menez aussi avec les étudiants que vous formez au journalisme, notamment au journalisme scientifique, avec la méthode ou la manière d'éviter les pièges les plus grossiers, c'est ça ?
Tout à fait. Donc la manière d'éviter les pièges les plus grossiers qu'on peut croiser donc dans les publications scientifiques, qu'on peut croiser, enfin dont on est nous-mêmes victimes. Hein, on est tous victimes de certains biais. Et alors en avoir conscience, c'est pas les éviter, mais c'est déjà une manière de se dire ah attention là, je suis peut-être en train de me faire avoir. Il faut que j'ai un clignotant qui s'allume pour dire alerte. Et aussi leur montrer. Comment relayer une information? Parce qu'il y a des manières très mauvaises de relayer une information. Je ne sais pas si je veux dire que telle affirmation est fausse, que par exemple le Père Noël n'existe pas. Il y a différentes manières de faire un article pour dire ça. Et si je mets en titre « Est-ce que le Père Noël existe ?», ce qu'on va retenir, alors il y a dans le titre il y a une question, il y a un point d'interrogation, on met un peu de doute. Mais en fait, ce qu'on va retenir au final, c'est « Père Noël existe ». Et on va avoir oublié que, en fait, l'article, il déconstruisait le fait que le Père Noël existe. Et tout ce qu'on va retenir, c'est juste le titre, Père Noël existe. On va oublier le point d'interrogation, et parce qu'on ne peut pas retenir tous les détails de ce qu'on lit, évidemment. Ce qu'on va retenir, ce sont les grands mots-clés. Et donc, si on déconstruit mal une information, le risque, c'est en fait qu'on renforce la mésinformation plutôt que de renforcer l'information. Donc, même si on est très rigoureux, il faut essayer d'être très rigoureux dans la manière dont on relaie l'information. Parce que le risque, c'est de finalement renforcer la mésinformation plutôt que l'information, ce qui est quand même un paradoxe si on fait bien son travail de journaliste.
Alors Michael Selson, on est bientôt à Noël, donc tout ce qu'on a dit, ça n'empêche pas de faire la fête, on a bien compris quand même ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut néanmoins souhaiter pour l'an 2019 qui nous attend?
Alors on peut souhaiter plein de choses. Si on veut être raisonnable dans nos souhaits, on peut souhaiter un monde où on laisse un peu plus de place aux connaissances scientifiques et aux résultats des connaissances scientifiques, des connaissances scientifiques qui font consensus. Hein. Après, il y a plein de débats scientifiques et c'est très sain. Peut-être moins de place au lobbying des industriels qui essaient de pousser leurs intérêts, je pense particulièrement au réchauffement climatique.
Alors pour les jeunes qui sont autour de la table, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'an 2019, au-delà des cadeaux vous pourriez espérer avoir?
Déjà, moins de pollution, moins de guerre, parce que je trouve qu'il y a trop de guerre, trop de harcèlement, genre, il y a trop d'humiliation dans le collège et tout. Je trouve qu'il faut arrêter ça parce que ça sert à rien. Et c'est tout.
Bah, tout simplement les meilleurs vœux et puis que le monde se passe au mieux, enfin que tout se passe au mieux.
Bien, merci pour cette conclusion. Et puis c'est vous l'avenir, hein, d'accord ? On compte sur vous.